Alors, ça recommence.
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
Fait beau, hein? Non? Puis on a de la chance, parce que...
Bon. Hey. Est-ce que vous avez tous compris?
Psst. L'été, comme jamais.
Mesurez-vous votre chance, vous qui n'avez jamais mis les pieds à Haute-Rive dans la Drôme. Oui, vous avez une chance folle, car vous n'avez pas encore vu le palais idéal du facteur Cheval. L'émerveillement de la première fois pour vous est encore à venir. Ferdinand Cheval était facteur, tout le monde le prenait pour un fou dans son village à la fin du 19e siècle parce qu'il trimballait des cailloux dans une brouette et disait construire un palais. Il lui a fallu plus de 30 ans, mais il l'a fait. Et le résultat est une merveille. Si cet édifice est fou, alors oui, il est fou, mais au sens le plus joyeux, le plus réjouissant qui soit. Je précise que le musée du facteur Cheval à Haute-Rive propose en ce moment une expo Agnès Varda. Varda aimait les facteurs, qu'elle surnommait les complices du destin. Bref, je ne sais pas ce que vous attendez encore pour filer dans la Drôme, voir le palais idéal. Et pourquoi diable vous parlez-je de Cheval ce matin? Parce que ce château est pour moi une utopie magnifique. Mais sans doute que je me trompe de mots. Peut-être que le terme d'utopie n'est pas adapté au palais idéal du facteur Cheval, et c'est justement ce qui caractérise ce mot aujourd'hui, l'utopie. On l'emploie n'importe comment, on commet des contresens. Non, une utopie n'est pas une chimère, ce n'est pas un objectif irréaliste ou impossible à atteindre. L'utopie a une histoire avant tout littéraire qu'il convient de raconter. Alors j'ai invité ce matin des spécialistes pour savoir si le château de Ferdinand Cheval est une utopie ou pas, mais surtout pour se poser une question, l'utopie est-elle encore possible? Soyez les bienvenus.
Dorothée Barba, 9h-11h, sur France Inter.
La rédactrice en chef de la revue L'Éléphant est en ligne avec nous. Bonjour Guénaëlle Le Soleux.
Bonjour Dorothée.
Il y a un léger décalage. Le numéro estival de votre revue de culture générale, se penche sur l'utopie avec cette question « Un autre monde est-il possible ?» Voilà pourquoi nous vous invitons. Ce matin, j'accueille également un historien en duplex de Genève. Bonjour Michel Poret.
Attention.
Est-ce qu'il est là? Bonjour Michel Poret.
Oui. Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à nos amis de la RTS pour la liaison en duplex. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Genève et vous êtes aussi l'auteur d'un dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, édition Georges. Et puis avec moi en studio, François Angelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu en voisin, producteur à France Culture. Vous êtes aux commandes d'une émission culte, Mauvais Genre, qui sévit sur les ondes depuis plus de 20 ans. Comment présenter Mauvais Genre à celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette émission?
C'est une utopie radiophonique. Toutes les semaines, en l'occurrence le samedi à 22h sur la dernière grille, on présentait l'actualité de la science-fiction, de l'érotisme, du polar, de la bande dessinée, des mangas et
tout ce qui fait mauvais genre.
Tout ce qui fait mauvais genre et tout ce qui fait genre.
Alors vous en parlez au passé, on présentait, mais l'émission revient
évidemment. Nous serons là le 29 août en soirée.
Et vous êtes à titre personnel passionné par le millénarisme, qui n'est pas sans lien avec l'utopie. Nous allons y venir. On démarre cette discussion utopique dans un instant avec vous trois. Mais d'abord, comme chaque jour, un coup d'œil à la presse. Et le mardi, nous avons rendez-vous avec le magazine plus féministe du cerveau que du capiton. C'est Cosette, bien sûr. Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Dorothée Barba.
Qui est votre tête d'affiche cette semaine, Isabelle?
Alors aujourd'hui, je vous propose une tête d'affiche un peu voyageuse, c'est Christina Boissière. Alors c'est une jeune femme qui va peut-être faire beaucoup pour vos vacances, figurez-vous, parce qu'elle a créé une plateforme qui s'appelle La Voyageuse et qui propose aux femmes qui n'osent pas voyager toutes seules de se lancer.
Alors son parcours?
Alors son parcours, il est assez logique, mais il est assez gonflé quand même. Au départ, Christina Boissière, taïwanaise, a une passion pour le voyage. Mais alors, dans la société conservatrice de Taïwan, l'idéal pour les femmes, c'est quand même que la tradition veut qu'elles se marient, qu'elles pensent pas trop à leur carrière et surtout qu'elles ne voyagent pas seules. Alors du coup, à 20 ans, Christina va frapper un grand coup. Elle part toute seule, justement, en Thaïlande, sans prévenir ses parents, pour bien montrer que, sans homme, elle peut s'en sortir. Et là, non seulement elle s'en sort très bien, en effet, mais elle est complètement mordue par ce qui va s'avérer être une passion. Elle va repartir. En fait, aujourd'hui, elle en est à 30 pays visités.
Alors, très bonne idée, cette agence pour voyageuses solitaires, mais on peut voyager sans forcément monter son agence de voyage.
Alors oui, c'est vrai, mais il faut quand même que je vous avoue que Christina voyage pas au plus simple. En fait, son truc, c'est le voyage roots, c'est-à-dire au plus près de la vraie vie des pays, de la culture, de la population. Et alors, elle vit le plus possible chez l'habitant. Mmh. Un peu comme dans l'émission « J'irai dormir chez vous ». Vous voyez, elle se pointe, elle hume l'ambiance, elle parle aux gens et elle fonce.
Est-ce que c'est parfois dangereux, Isabelle ?
Justement, alors c'est là que le bas blesse. Plusieurs fois, Christina Boissière s'est retrouvée dans des situations délicates, voire même en effet dangereuses. Mais elle n'a pas voulu jeter l'éponge, alors elle a commencé à cogiter sur la question, à chercher des solutions, justement pour que les femmes comme elle, qui ont envie de voyager toutes seules, puissent le faire avec quelque chose qui soit sécurisé, mais en même temps pas trop intrusif, pas de voyage organisé, mais quand même un recours en cas de problème. En fait, le truc compliqué, quoi.
Alors, elle a trouvé, finalement, la solution. Comment ça marche, la voyageuse ?
Alors, la voyageuse, c'est une plateforme en ligne qui met en relation des femmes qui ont envie de voyager, comme Christina, donc dormir chez l'habitant ou chez l'habitante, en toute sécurité. Et puis, de l'autre côté, des femmes, justement, qui veulent bien les accueillir. Alors, tout ça est sécurisé par un système de vérification, d'entretien, tout ça, c'est super sérieux et ça marche, puisqu'aujourd'hui, la voyageuse, c'est 2500 hébergeuses aux quatre coins du monde. Alors, pour avoir les détails de cette belle rencontre, je vous propose, comme chaque semaine, de vous retrouver sur le site de Cosette.fr.
Voilà, l'article sur cette magnifique voyageuse est en accès libre sur le site de Cosette. Merci beaucoup Isabelle Motreau.
Merci à vous d'avoir été.
Et je vous dis bonne journée à vous, à mardi prochain. Et nous plongeons dans l'utopie dans un instant avec mes trois invités. Voici d'abord Ichon sur France Inter.
On n'a pas la même vie mais on fume la même clope. C'est tout ce que je t'offre, c'est tout ce que je propose. Tu cherches autre chose, y'a qui pro. Maintenant c'est toi qui
Noir ou blanc, il s'appelle Ichon. Son premier album sortira en septembre, choix musical de Thierry Dupin. Cette émission est préparée par Juliette Proutot et Nicolas Bove, réalisée par Fred Milano avec Clément Vuillet à la technique.
France Inter. L'été comme jamais.
L'utopie est-elle encore possible? C'est la question que nous nous posons jusqu'à 11h avec mes trois invités à l'occasion du dossier consacré à ce sujet dans L'Éléphant, revue trimestrielle de culture générale. Guénaëlle Le Soleux, rédactrice en chef de L'Éléphant, est en ligne avec nous. Michel Poret, historien en duplex de Suisse, et François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture et dans ce studio. Arrêtons-nous d'abord sur ce mot utopie. Que signifie-t-il précisément, Michel Poret? Et n'aurait-on pas tendance à l'employer un peu n'importe comment aujourd'hui?
On l'emploie un peu dans tous les sens. Et vous venez d'en rappeler un usage intéressant avec le palais idéal du facteur cheval. Donc l'utopie, c'est un roman d'État.
Donc ça n'est pas, dites-le-moi tout de suite, brisez mes illusions, ça n'est pas une utopie, le facteur cheval.
Non, on ne peut pas répondre aussi d'une façon aussi tranchée. Puisque l'utopie est un imaginaire, puisque l'utopie est une construction imaginaire, et bien dans la tête du facteur cheval, il est vrai que ce palais idéal, qui était le lieu de son bonheur, peut être pensé comme un lieu utopique, c'est-à-dire qui n'existe pas dans la réalité. Dès Thomas More, en 1516, le genre utopique va inonder la culture occidentale. On peut remplacer le mot utopie ou le genre utopique par roman d'État, puisque cette tradition littéraire, jusqu'à sa grande crise à la fin du XVIIIe siècle, qui est à la fois un modèle discursif et une façon de penser, eh bien ce genre utopique essaye de mettre en fiction. Rappelez-vous d'ailleurs, j'ai pas vu le numéro de L'Éléphant, mais c'est très intéressant de se souvenir qu'il n'y a pas de verbe en français pour décrire l'attitude de faire de l'utopie. Ah. Utopiser n'existe pas. Il y a un très beau dictionnaire des verbes qui n'existent pas, et le mot utopiser n'existe pas. Et en général, on utilise à la place fictionner. Donc on est véritablement dans le cadre d'une fiction, et qui décrit un lieu qui n'existait pas, utopos, avec une règle extrêmement importante, c'est le lieu du bonheur impossible. Donc on construit des sociétés imaginaires depuis Thomas More, des sociétés qui n'existent pas, qui sont très souvent insulaires, loin du monde, loin du monde réel, qui sont figées dans le présent, qui sont figées hors de l'histoire, et dans lequel, avec toute une série de contraintes épouvantables qui fait que personne n'aimerait vivre en utopie, on construit le bonheur obligatoire de l'égalité entre les individus. Donc évidemment, ce genre littéraire va avoir un héritage absolument extraordinaire dans la culture littéraire, dans la culture politique, dans la culture cinématographique, dans la grande culture de la dystopie, peut-être qu'on y reviendra, qui depuis Swift va construire une espèce de modèle alternatif pour montrer combien est chimérique de vouloir construire un monde idéal qui n'existe pas, dans lequel il y a une règle épouvantable, c'est le bonheur obligatoire.
Épouvantable, cette règle du bonheur épouvantable. François Angelier, l'adjectif, je le disais, on est venu à signifier irréaliste, l'adjectif utopique. Ce glissement sémantique, dit-il quelque chose à votre avis?
Oui, absolument. Aujourd'hui, on dit que quelque chose est utopique dans deux cas, soit parce qu'effectivement, il trace une confiance dans le bonheur et la réalisation d'un bonheur possible, ou alors, au contraire, quelque chose d'irréalisable. Donc, on est dans une espèce d'angle mort entre le rêve et le songe creux. Enfin, et quelque chose qui ne peut pas se faire. Effectivement, on a toujours été déçus par les utopies. Comme le disait Michel Poret, effectivement, tous ceux qui ont eu tenté de mettre en place des utopies, des villes, des royaumes, des îles utopiques, eh bien, ont toujours abouti à un enfer. Je crois que c'est Paul Claudel qui disait que, imaginez le paradis réalisé sur la Terre, vous aurez une assez bonne idée de l'enfer. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, le bonheur est réglementé, il est ordonné, on légifère sur ce qui vous fait ou non plaisir, on perd la dimension essentielle qui est celle de la liberté.
Le destin des utopies est de nous décevoir.
Absolument. Et on constate dans l'histoire que toutes les tentatives, je dirais, de régime absolument parfait, de légiférer sur un bonheur absolu, ont abouti à des enfers assez respectables.
Guénaëlle Le Soleux, d'où est venue cette envie de vous pencher dans la revue L'Éléphant sur les utopies en cet été 2020?
L'Éléphant, donc, vous le disiez, est une revue de culture générale, et notre idée, c'est de se pencher sur tous les domaines du savoir. Et on a trouvé que l'utopie, de ce point de vue-là, était un bon sujet, parce que monsieur Poré le disait, la question d'utopie est au croisement des récits de voyage, de la littérature, des idées politiques, des questions de société. Et on s'est posé la question de ces questions de société. Aujourd'hui, la société est désillusionnée, elle est inquiète, elle n'a pas foi en l'avenir, elle est presque désespérée. Et on voit que les utopies ont été remplacées en littérature, au cinéma, en bande dessinée. Elles ont plutôt laisser la place aux dystopies. Mmh. Je crois que c'est en 1960, déjà en 1960, Sioran disait nous assistons à une contamination de l'utopie par l'apocalypse. Alors, il ne parlait pas de dystopie, il parlait d'apocalypse. Et on se posait la question de savoir si peut-être de nouvelles utopies étaient possibles. Est-ce que ce contexte assez négatif pourrait avoir être un ferment pour de nouveaux espoirs? Il y a évidemment, on a pensé, alors M. Poré nous dira s'il s'agit d'utopie ou pas, mais tout ce qui concerne l'écologie, l'éternité, l'égalité, la décroissance. Et surtout, on s'est rendu compte avec le Covid, très vite après le début du confinement, il y a un terme qui était apparu, qui est la notion du monde d'après. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on ne peut pas repartir après le Covid comme c'était avant. Le monde d'après doit être différent. Et donc, on se dit, mais est-ce que finalement, il n'y a pas là une nouvelle utopie? C'est-à-dire, on repart à zéro, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Covid. Et donc, est-ce que cela, c'est peut-être une nouvelle utopie? Et donc, c'est dans ce contexte, un peu, on a demandé à notre autrice qui s'appelle Sophie Doudet, qui est professeure de culture générale à Sciences Po Aix, de revenir sur ce qui est l'utopie, hein, la manière de l'éléphant. On revient sur les fondamentaux, donc ses racines, son histoire, et de se poser la question de ce que c'est vraiment l'utopie.
Et c'est enrichi par des quiz de culture générale qui font la marque de fabrique de votre revue L'éléphant.
Absolument. Donc on a des quiz, on a des jeux pour venir vous dire.
Oh, c'est terrible ce décalage entre nous qui nous empêche de dialoguer. La liaison n'est pas excellente, Guénaëlle Le Saulieu. On va se demander effectivement si cette notion de monde d'après dont nous a rabattu les oreilles pendant le confinement est une utopie. Mais j'aimerais d'abord qu'on fasse une petite définition d'un mot que vous venez d'employer. C'est le mot dystopie, Michel Poré. Qu'est-ce qu'une dystopie?
La question tombe bien parce que nous sommes avec l'équipe, sauf mon regretté maître qui a disparu, Bronislav Bachko, qui était véritablement le spécialiste peut-être le plus éminent du XXe siècle de l'histoire de l'utopie. La dystopie est un genre extrêmement intéressant parce que finalement c'est d'abord un genre littéraire beaucoup moins ennuyeux que l'utopie. Parce qu'on oublie de dire que le texte utopique depuis Thomas More est un texte répétitif.
Et pénible à lire.
Pas pénible à lire, parce qu'on peut le lire avec des stratégies d'analyse littéraire, mais c'est un monde qui se répète. Mmh. Et c'est pas par hasard que quelqu'un, à la fin du XVIIIe siècle, a eu un coup de génie. Sébastien Mercier, en 1770, va casser le paradigme utopique, c'est-à-dire le monde idéal ailleurs sur la Terre, dans une île parfaite ou quelque part dans les cieux parfaits, et va déplacer l'utopisme, le réformisme par l'utopie dans le temps, et va naître ou va se mettre en place en 1770 un très beau roman, l'an 2440, ou Rêve s'il s'en fut, et qui est un basculement extrêmement intéressant dans la culture de l'utopie, puisqu'on passe de la vieille utopie insulaire à une pensée utopiste dans le temps. Et à partir de là, se met en place, dans l'héritage de Swift, ou aussi de Voltaire, qui étaient deux penseurs extrêmement sceptiques sur l'utopie. Rappelez-vous, hein, Voltaire, l'Eldorado, on doit quitter le monde idéal pour revenir vers sa bobonne, au château, et puis vivre dans le monde réel. Donc ces philosophes un peu sceptiques, après Thomas More, après Swift, ont montré à quel point cet imaginaire chimérique ne menait à rien, parce que ça nous invite à vivre hors de l'histoire. Et dans ce mouvement, se mettent en place effectivement toute une série de textes. Le premier, qui est mal connu, est un texte français d'un type absolument extravagant qui s'appelle Émile Souvestre, qui a écrit en 1846 « Le monde tel qu'il sera », qui est une dystopie industrialiste absolument extraordinaire, où par exemple le sein des nourrices est remplacé par un sein à vapeur, et on plonge dans un monde épouvantable qui est réglé par le capitalisme et l'industrialisme. Et donc on construit à partir de ce moment-là des modèles alternatifs, et la dystopie, c'est l'anti-utopie, c'est ce que finalement, vers quel enfer nous mène le monde idéal.
C'est le monde encore pire de celui qu'on est en train de vivre. C'est le pire du pire, finalement, la dystopie.
Alors ça, on ne sait pas, parce que les historiens n'ont pas une boule de cristal et savoir ce que sera le monde de demain. Je vous rappelle qu'en 1970...
Mais les écrivains peuvent imaginer.
Bien sûr, vers 1970, il y a le fameux l'an 01 de GB avec le film de Doyon qui nous parle de nouveau d'un monde,
et on fait un pas de
monde
côté.
D'après. Voilà. Donc ça, on ne sait pas. Par contre, la dystopie a produit des chefs-d'œuvre littéraires, Émile Souvresse, Zamiatine, Huxley, l'extraordinaire dystopie anticapitaliste de Jack London, qui s'appelle Le Talon de Fer, qui est vraiment un des premiers grands livres qui dénonce le capitalisme mondial et l'oligarchie sociale qui se construit autour du capitalisme mondial. Évidemment, le texte de Orwell. Ou bien un texte aussi dystopique qu'on oublie très souvent, parce qu'il est écrit par une femme, qui s'appelle Karin Boy et qui a publié en plein nazisme en Suède une extraordinaire dystopie intitulée La Kallocaine et qui montre que les régimes totalitaires vont avoir une opportunité d'une certaine manière de diffuser massivement la Kallocaine qui est un produit psychotrope et qui permet l'avènement d'un régime totalitaire. Donc la dystopie, c'est quelque chose qui donne à penser la fin de l'utopie mais qui est véritablement, me semble-t-il, beaucoup plus en prise avec des problématiques politique contemporaine, liée à l'environnement, liée à l'économie, liée à la pauvreté, etc.
François Angelier, la dystopie est beaucoup plus dans l'air du temps que l'utopie.
Ce qui est dans l'air du temps, je crois qu'il y a un retour à l'utopie. Il y a eu récemment des tentatives, notamment en science-fiction, de penser une sorte de retrouver, je dirais, le filon d'une vision favorable, non pas optimiste, mais je dirais débarrassée de tous ces fantasmes de champs de ruines, d'apocalypse industrielle et de désastres écologiques.
C'est encore un signal faible aujourd'hui, vous diriez, ou c'est une tendance lourde ?
C'est une tendance qui tente de s'amorcer. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, comme disait quelqu'un. Donc, je souhaite bonne chance à ceux qui veulent chanter le bonheur réalisé en fiction. C'est vrai que pendant des décennies, on a eu un imaginaire de la catastrophe planétaire qui s'est mis en place depuis, je cite Ballard, jusqu'à les textes les plus récents, et qu'effectivement, il y avait là une manière à la fois de désamorcer tout un tas d'angoisses, de fantasmes, et en même temps de réfléchir sur les causes de la catastrophe. Donc je ne sais pas très bien où ça va nous mener, mais en tout cas, je veux dire que la dystopie est tellement maintenant enracinée dans l'ADN de la fiction, ce serait très difficile de l'en douter.
Ce qui est particulier, c'est que l'utopie, c'est à la fois un moment et un endroit. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas, écrivait Oscar Wilde. Donc c'est sur une carte, l'utopie, c'est un endroit, mais c'est aussi un moment, une projection dans le futur. François Angelier.
Tout à fait, c'est à la fois une espérance et un projet. Une espérance au sens religieux, c'est-à-dire le millénarisme est une forme d'espérance utopique, la croyance de la fin de l'histoire, la croyance d'une sorte d'horizon favorable de l'histoire humaine. Et en même temps, certains disent, le monde existe, le monde a des lois, le monde a des règles, on peut démonter cette machine qu'est la planète et qu'est le monde, et voir où les choses dysfonctionnent et tenter d'aligner tout ça, de méditer, de faire quelque chose qui fonctionnera définitivement bien. Et ça, effectivement, ça c'est l'utopie qui construit, comme disait Michel Poré, des villes, des famidistères, comme au 19e siècle, des royaumes, des...
Alors, je crois que nous avons rétabli une liaison téléphonique correcte avec Guénaëlle Leceleux, qui est la rédactrice en chef du magazine L'Éléphant. Un exemple concret à lire dans cette revue L'Éléphant, Guénaëlle Leceleux, c'est la ville bio-inspirée. Entre utopie et pragmatisme, c'est ce qu'on lit dans vos colonnes.
Oui, parce qu'on a l'impression finalement que la ville, c'est le lieu qui permet de passer du théorique au concret ou du littéraire au réel. Il y a beaucoup de villes liées à l'utopie chez les philosophes, les peintres, les écrivains. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on peut passer de ce monde théorique et littéraire à quelque chose qui est aujourd'hui, dans ce contexte de réchauffement climatique, de difficultés de vivre en ville. Les villes aujourd'hui accueillent plus de la moitié de la population sur Terre, et donc il faut faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, les villes dont on sait qu'elles ne vont faire que se développer, peuvent être repensées, l'urbanisme peut être repensé dans une logique de ce monde, de cette espérance et de projet dont parlait tout à l'heure. Et donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets qui sont soit lancés, soit qui sont embryonnaires, dont certains ont d'ores et déjà été des échecs. Mais l'idée, c'est de joindre le monde des idées et le pragmatisme. Donc vous avez des projets de cités vertes en Chine, en Arabie Saoudite. Vous avez des bâtiments innovants qui sont neutres pour le carbone. Vous avez des transformations urbaines avec des jardins collectifs, des toits qui sont cultivables, etc. Donc on sent que la ville est le lieu où on peut mettre en œuvre cette volonté de changer d'un monde différent et d'un monde surtout qui fait corps avec la nature, qui se reconnecte avec la nature.
Allez, nous reprenons cette discussion sur l'utopie dans un instant, car il est 10h30 et que nous avons rendez-vous à cette heure-ci avec le répondeur d'Inter. Les auditrices et auditeurs nous laissent des messages, ils réagissent aux émissions. Hier, ici même, nous parlions de la place des séries télé dans nos vies.
Le répondeur d'Inter,
01 56 40 68 68.
Bonjour, c'est Olivier. Je suis en vacances à Cibourg, à côté de Saint-Jean-de-Luz. J'écoute l'émission sur les séries. Il y a un aspect que j'aurais bien souhaité voir abordé dans l'émission, c'est le côté vraiment addictif. Et peut-être donc un aspect peut-être un peu plus négatif, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui on a des séries qui sont très bien faites, très bien écrites, mais aussi avec beaucoup de moyens, je pense, scénaristiques, qui visent vraiment à nous happer, à nous bloquer sur notre écran et à voir éventuellement plusieurs épisodes de suite et à passer à une autre série, etc. Et donc cet aspect profondément addictif, ce qui fait que finalement on regarde beaucoup de séries, on passe beaucoup de temps devant l'écran, et un peu comme on en a accusé la télévision, ne sont pas le nouvel opium du peuple, celui qui fait qu'on reste totalement accroché et qu'on n'agit plus vraiment dans la vraie vie. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.
Florence, j'habite en Bretagne, à Dinan, et j'appelle au sujet d'une série qui s'appelait Un village français, qui a donc duré plusieurs années, qui parle de la Seconde Guerre mondiale par le biais de plusieurs familles. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'elle n'est pas du tout manichéenne. Les nazis qu'on pourrait penser vraiment avec une âme très noire, finalement, il y a malgré tout, une espèce de petite part d'humanité en eux, étonnamment. Et puis les résistants, on voit aussi les failles qu'ils peuvent avoir. Et donc, à mon sens, ça ne peut être montré que par le biais d'une série parce que ça s'inscrit dans la durée. Et on voit l'intrigue s'installer, les personnages petit à petit prendre corps, évoluer, etc. Voilà, donc c'est ce qui est très intéressant dans cette série. Merci, au revoir.
01 56 40 68 68.
Et n'hésitez pas évidemment à laisser un message sur le sujet de la première heure d'aujourd'hui, les cabanes, ou sur celui dont nous parlons en ce moment avec mes trois invités, l'utopie. Est-elle encore possible? On reprend d'ailleurs nos échanges utopiques juste après ça.
I was 5 years ago. I didn't have you cold, so I could get you on the phone. The old you I'm looking for. My favorite memory. You call me your majesty. And we let this whole castle fall down. Oh, what a tragedy. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do. I do. Come bring me all your sins. I'll forgive all of them. If you put a band-aid on the scars, I'm no good at hiding them. Would you give me your heart again? Or at least let me borrow it. If I could just see you, we don't even have to talk. I'll take an argument. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do.
I Do, c'était Jessie Reyez sur Inter.
Je fais des rêves hyper réalistes, je pense à des choses super bizarres.
Quel genre de choses ?
On va être une machine à faire des succès, comme la Motown. Mais pour les jeux vidéo, tu l'auras entendu ici en premier.
Bandersnatch, un jeu d'aventure, créé à partir du bouquin. Jérôme F. Davis était un génie.
C'est pas le mec qui est devenu dingue et qui a décapité sa femme. Mais quand c'est plus conceptuel, il faut un peu de folie là-dedans.
Que tu entends des voix?
Non, pas des voix, mais il y a quelque chose.
Bandersnatch, c'est cela qui provoqua sa chute.
Extrait de la bande-annonce de Black Mirror, série à grand succès, dont les scénaristes se targuent d'être prophétiques, d'avoir imaginé certaines innovations avant qu'elles ne débarquent dans nos vies. Série très noire, comme son nom l'indique. Guénaëlle Losseleux, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la revue L'Éléphant. Cette série, est-ce que c'est l'exemple même du règne de la dystopie, d'après vous ?
En tout cas, c'en est une manifestation. J'ai l'impression qu'en fait, elle nous permet de voir, de comprendre en marchant, d'avancer avec la technologie, de voir ce que cela pourrait être. Je ne sais pas effectivement ce qui en sera à l'avenir. Elle a déjà prouvé qu'elle était capable de dresser un tableau assez noir de ce qui pourrait nous attendre. Voilà, effectivement, elle est. De ce point de vue-là, elle est assez représentative.
Nous sommes, je le rappelle, avec Michel Poret, historien en duplex depuis Genève, et avec François Angelier, producteur de Mauvais Genre sur France Culture, qui lève le doigt pour intervenir. François Angelier, comme c'est poli. Dites-moi.
Écoutez, merci. Non, mais le passage de l'utopie à la dystopie me semble incarné par deux romans qui portent à peu près le même titre, Sur la route de Jacques Kerouac et La route de Cormac McCarthy. Et on voit bien.
Une histoire de chemin, toujours.
Voilà. On voit comment un idéal utopique, qui est celui de la route, c'est-à-dire l'horizon sans cesse relancé, sans cesse redéfini, où tout est possible et où les espérances sont toujours dans l'après. C'est ça, la route. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on va rencontrer, quel paysage on va découvrir, que nous réserve la route. La première chose, les années 70, enfin bien avant Kerouac, et puis la route de Cormac McCarthy, la route qui est devenue un espace de survie totalement dystopique, non plus utopique mais dystopique, où l'on consomme l'effondrement généralisé à la fois des corps, des choses, des sociétés, l'horreur, le cannibalisme, la mort, la pluie de cendres, voilà, c'est ça, de sur la route à la route, on a bien le passage et d'une certaine façon le désenchantement total de l'espérance humaine entre Kerouac et Cormac McCarthy.
Et c'est tout aussi sombre, voire beaucoup plus que Black Mirror. Michel Poret, vous vouliez intervenir.
Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose qui va un peu dans le sens de ce qu'a dit François Angelier. Je crois qu'il faut sortir un gros mot.
C'est allez-y. Compliqué.
C'est l'horizon d'attente. En fait, oui, l'horizon d'attente. C'est important parce qu'il ne faut pas tomber dans la naïveté que la littérature va pouvoir prévoir ce qui arrive. Par contre, il y a des horizons d'attente extrêmement importants dans les sociétés. L'horizon d'attente du XXe siècle entre la guerre de 14 et puis Hiroshima, c'est la destruction totale de l'humanité. Est-il par hasard que les grandes utopies du XXe siècle sont contemporaines de ce moment ? C'est-à-dire qu'elles résonnent de ce désenchantement que François Angelier vient de rappeler et qui nourrit une littérature extrêmement pessimiste. Non pas une littérature qui anticipe, parce qu'on peut toujours anticiper. On peut ressortir la collection entière des 500 numéros du Fleuve Noir, une grande collection de science-fiction populaire des années 50 à 70, et regarder tout ce qui a pu être anticipé. Par contre, qu'il y ait un horizon d'attente sur lequel travaille l'imaginaire de la littérature, je crois que c'est très important. On est en ce moment, et on ne le voit pas encore assez, il y a un horizon d'attente sécuritaire, extrêmement fort, voulu par l'État. On est dans une société qui est en train de basculer tranquillement, depuis une dizaine d'années, la vidéosurveillance, tout ce qui est, toutes les techniques qui ont été ajoutées pour le contrôle social, avec la fin de l'État-providence. L'État-providence a été un grand horizon d'attente des sociétés heureuses jusqu'à une vingtaine d'années. Maintenant, l'horizon d'attente qui laboure profondément les sociétés, c'est le sécuritaire. Et ce qu'on vient de traverser avec ce qu'on a appelé le confinement, alors que ce n'était pas du tout un confinement, c'était un enfermement, on va ressortir dans le monde d'après avec cet horizon d'attente sécuritaire extrêmement, je dirais, amplifié sur le biologique, sur la mobilité, sur les gestes barrières, etc., etc. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Et moi, j'appelle ce nouveau horizon d'attente une sorte de post-démocratie ou de post-humanité. Un auteur anglais vient de faire un roman extraordinaire qui montre comment l'utopie s'accroche à un nouvel horizon d'attente. C'est le très grand roman de Ian McEwan qui s'appelle Une machine comme moi, qui est un peu ce que Orwell était à la dystopie et à l'utopie politique. Il me semble que le roman de Ian McEwan, Une machine comme moi, qui raconte l'irruption de cyborgs absolument parfaits dans la société contemporaine, au point que les femmes peuvent aller faire l'amour avec un cyborg sans se rendre compte que c'est une machine, eh bien ça, c'est un horizon d'attente, je crois, extrêmement important sur la post-humanité. Et il me semble que l'utopie et la dystopie, sans entrer dans le détail, a toujours fonctionné sur ce type de paradigme, pour essayer de, pas de refléter, pas de réverbérer, mais d'être en prise avec quelque chose qui est à l'œuvre très profondément dans une société. Je pense encore, pour terminer, au livre de Rutger Bregman, hein, ce jeune néerlandais qui a sorti ce best-seller il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle Utopie réaliste, hein, qui est véritablement une réflexion de type Thomas More sur l'utopie, avec un horizon d'attente absolument extraordinaire, qui était celui de l'État-providence, qui est en train d'être détruit partout en Europe, partout dans les sociétés démocratiques, c'est en finir avec la pauvreté. Pourquoi on n'a pas pu en finir avec la pauvreté? Et quels seraient les remèdes pour essayer d'en finir avec la pauvreté? Donc voilà, ça c'est un livre qui articule l'utopisme dans une réflexion politique, qui reflète aussi, je dirais, ce qui anime les sociétés sur ce mot compliqué d'horizon d'attente. Très longtemps, c'est le bonheur social. Maintenant, on est peut-être quelque chose qui est dans l'ordre du bonheur, dans le sécuritaire absolu.
Le monde d'après est une dystopie, hein. C'est ce qu'on retient notamment de ce que vous dites. J'aimerais qu'on en vienne, François Angelier, à votre passion du moment qui est le millénarisme, je crois. De quoi s'agit-il? Et surtout, le millénarisme est-il une utopie?
Alors, le millénarisme, c'est une croyance religieuse qui est issue de l'Apocalypse de Saint Jean et qui veut que, à la fin des temps, eh bien, le Christ régnera 1000 ans sur la terre avec ses saints. Ça précède la fin de l'histoire définitive et l'avènement donc de Dieu. Donc c'est ce moment privilégié de 1000 ans où le Christ règne avec ses saints et où la terre deviendra un lieu de bonheur et qui a évidemment généré toute une fascination, alors on peut le dire, quasi utopique, puisque certains, au fil de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ont tenté de l'incarner, toujours le résultat ayant toujours été évidemment catastrophique. Et c'est cette idée que, grosso modo, eh bien, l'histoire nous réserve, à la toute fin, eh bien, la capacité justement de régénérer la terre et d'en offrir au moins une sorte d'équivalent de ce qu'a été le paradis terrestre. C'est-à-dire peut-être un retour au paradis terrestre en attendant l'avènement du paradis céleste.
C'est au moment où l'humain conçoit sa perte, hein, finalement, sa disparition de son monde, en tout cas, qu'il se plonge dans l'utopie.
Absolument. Il faut avoir peut-être le sentiment de la perte pour justement qu'apparaisse quelque chose qui ressemble au millénarisme, c'est-à-dire que l'idée que, eh bien, seule une divinité, une puissance supérieure, une sorte de grande entité qui nous gouverne et qui nous aime, eh bien, fera devenir enfin le bonheur sur la terre. Mais effectivement, ça confine à la fois à la croyance religieuse et en même temps, comme disait Michel Poré, à l'idée d'un monde hyper sécuritaire où toute surprise, où tout aléatoire, où toute options possibles ont disparu, puisque ce sont des mondes où tout est prévu, où en définitive, tout étant construit, tout étant prévu, tout étant planifié, eh bien, il n'y a plus de surprise. Le bonheur est planifiable.
Le millénarisme est l'une de vos passions. Jules Verne en est une autre. François
fait,
Angelier,
oui,
vous êtes l'auteur d'un dictionnaire, Jules Verne, qui va bientôt reparaître, d'ailleurs,
enfin,
je crois.
Pas tout de suite,
la
mais une deuxième version
est en cours.
Et totalement refondue est en cours. Oui.
On trouve de l'utopie, évidemment, chez Jules Verne.
Alors Jules Verne, absolument, c'est un pessimiste. C'est quelqu'un qui avait une confiance extrêmement limitée dans le modernisme, dans, je dirais, une sorte d'utopisme industriel et technologique. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le prophète des sciences. C'est quelqu'un qui avait une vision assez sombre et assez angoissante de tout cela. Et chaque fois qu'il a inventé une utopie, bien cette utopie évidemment a mal tourné, si j'ose dire, ou prenait des allures extrêmement singulières. Par exemple, le Nautilus est une utopie, puisqu'elle est la conception voulue, technologiquement aboutie, d'un homme qui voulait créer un lieu autre, ou renaître, et créer un monde qui est pour lui l'idéal, c'est évidemment un monde sous-marin. Bon. Et on sait comment finit le Nautilus, et on sait aussi à quoi le Nautilus peut servir sur le plan de la destruction et de l'agression. dépression. Il y a une autre utopie de Verne qui est tout à fait caractéristique, c'est l'île à hélice. Il imagine que quelques milliardaires ont créé une île artificielle qui, avec deux moteurs, se déplace à la surface des mers en étant toujours, je dirais, baigné par le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mauvais temps, il n'y a plus de tempête, il n'y a plus d'ouragan. On est toujours dans une sorte d'utopie météorologique. On retrouve une sorte de paradis comme ça. Et ça finit très mal également, puisque suite à des dissensions religieuses, eh bien, l'île à hélice explose et les moteurs, au lieu de se conjoindre, eh bien, explosent. Et sinon, dernière chose, il y a dans les 500 millions de la Bégome, pardon, qui est une utopie française, Franceville, construite dans l'Idaho aux États-Unis. Et les précisions que donne Verne avec une malice totale pour la construction de ce bonheur urbain sont telles qu'évidemment, ça, peu à peu, on a le sentiment d'un univers disciplinaire et concentrationnaire qui n'a d'équivalent que son envers, qui a été construit par un ingénieur allemand, Stahlstadt, qui est la cité prussienne, militarisée, industrielle, la cité de l'acier. Mais on se rend compte que les deux cités offrent un enfer terrestre à peu près équivalent, même si pétri d'idéaux tout à fait contradictoires.
Toujours, 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 les utopies finissent mal, hein,
des
François
utopies...
Angelier. Oui. J'aimerais qu'on termine rapidement en parlant du familistère de Guise qui se trouve dans l'Aisne et qui se visite, masque obligé. Obligatoire évidemment, Michel Poret, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous écrivent pour nous parler de ce familistère. Qui était Henri de Guise ?
Écoutez, c'est représentatif de ce qu'on appelait le mouvement de l'utopie industrialiste et socialiste au XIXe siècle, avec Robert Owen en Angleterre, Saint-Simon, Charles Fourier ou Étienne Cabet en France. C'est un mouvement, je dirais, que le marxisme va condamner parce qu'il est réformiste et il y avait cette idée autour de l'humanisme, du christianisme, de la famille. Le modèle familial est extrêmement important, comme en utopie où la famille est complètement étatisée, hein, la sexualité est étatisée, l'éducation des enfants est étatisée. Et en fait, on a essayé de reconstruire dans ces familistères des communautés familiales, industrielles, industrieuses même, morales, avec un système coopératif, avec l'idée de ces penseurs du socialisme industriel, je ne suis pas un spécialiste de ça, c'est une étape de l'utopie, et bien c'est-à-dire que la multiplication des petites communautés socialistes familiales vont finalement, et c'est ce que un tout petit peu est compliqué à comprendre, mais c'est à leur espoir, vont remplacer la société capitaliste. Donc c'est un remplacement de la société capitaliste, tourné vers la production, tourné vers l'industrialisme, et c'est des petites entités qui se mettent en place, et petit à petit, le monde d'avant va disparaître, et le monde d'après sera celui d'un grand phalanstère, ou de multiples phalanstères, dans lequel on réalisera l'idéal, je dirais, de l'utopisme socialiste.
On pense aussi au phalanstère de Charles Fourier, bien sûr. Est-ce qu'à chaque fois, finalement, pour reprendre cette parole de sagesse populaire, est-ce qu'à chaque fois l'enfer est pavé de bonnes intentions, Michel Poret ?
Non, parce que ça, c'est un tout petit peu... il faut quand même reprendre ces gens au sérieux. Hein. Mm-hmm. Moi, j'ai fait un tout petit peu l'avocat du diable, parce que, surtout quand on relit la littérature communiste des années 70. Vous savez, Thomas More est intéressant. On pourrait terminer la discussion avec la postérité de Thomas More.
Allez-y.
L'Église catholique en a fait un saint, les communistes en ont fait un saint. Jusque dans les années 90, il y avait un énorme monument de Thomas More sur une place de Moscou, l'inventeur du communisme, et puis il a été béatifié, et c'est un héros, je dirais, du panthéon catholique. Donc je crois que tout le discours sur l'utopie, d'une certaine manière, oscille entre ces deux pôles. Donc il faut les prendre au sérieux, et Thomas More, qui écrit l'utopie au moment où l'Europe, on l'a pas dit, mais c'est très important, au moment où l'Europe subit le plus grand choc culturel de l'histoire de l'humanité, découvre une autre partie de l'humanité dans les Amériques, une partie dont on pense qu'elle n'appartient pas à la même histoire, et ensuite on va essayer de rattacher ça à la même histoire de l'humanité. Eh bien, lorsqu'un homme arrive en utopie, et le modèle de Thomas More, c'est le modèle de la découverte de l'Amérique, lorsque le narrateur ou le voyageur arrive en utopie, eh bien, il a le même choc culturel, certainement, que les explorateurs européens qui sont arrivés en Amérique et qui ont découvert un monde qu'ils ne connaissaient pas. Donc, il faut quand même ne pas... Le bonheur, est, vous avez dit quoi, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est quand même des types qui ont pensé quelque chose, qui ont essayé de penser quelque chose pour améliorer le monde, mais avec un système narratif qui est extrêmement répétitif et qui a produit, on dit que le siècle des Lumières, qui est le siècle de la tentative de penser le bonheur d'une manière absolue, on peut rappeler que le siècle des Lumières, en français, c'est le moment où on a produit le plus de titres de textes utopiques. Il y a à peu près 150 textes utopiques publiés en français au XVIIIe siècle, contre une quinzaine ou une vingtaine publiés avant, sans évidemment remonter à la tradition platonicien de l'Atlantide, etc. Donc je ne crois pas qu'on peut simplement ramener ça à cette parole, mais il y avait véritablement un idéal d'essayer de transformer la réalité ou la façon de penser la réalité par un roman d'État.
Bien sûr. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges. Merci. L'éléphant est donc en kiosque.
Merci beaucoup, c'était très bien.
C'était très bien, merci à vous. Revue trimestrielle, l'éléphant de Culture Générale avec les Beatles à la une. Et donc ce dossier sur les utopies à l'intérieur. Vous recommandez d'ailleurs, Guénaëlle Le Seuleu, une expo virtuelle, expo sur l'utopie à retrouver en ligne sur le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. C'est d'une grande richesse hein, cette exposition virtuelle.
Absolument, et elle donne plein d'informations, des éléments pédagogiques aussi pour les plus jeunes, elle est formidable.
Voilà, on mettra un lien bien sûr à la page de L'été comme jamais sur le site de France Inter. François Angelier, on vous écoute avec vous, toute votre bande de mauvais gens sur France Culture. Alors, ça reprendra à la rentrée, mais c'est
absolument
en podcast pour l'instant sur le site
voilà,
d'Inter.
Tout à fait.
En attendant votre bio de Bernanos, en attendant la réédition de votre dictionnaire Jules Verne, On lit quoi
sur l'utopie?
Mm-hmm.
Ah ben je recommande, puisque j'ai parlé du millénarisme, je recommande les deux livres de Jean Delumeau chez Fayard, Mille ans de bonheur et l'histoire du paradis, qui éclairent bien à la fois toutes ces rêveries et toutes ces tentatives d'élaboration autour du paradis et puis de la fin des temps.
Dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières de Michel Poret est à lire chez Georges, éditeur suisse. J'espère que je le prononce correctement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de E à la fin.
Georg.
Merci beaucoup, merci d'avoir été en duplex depuis Genève. Très bonne journée à tous les trois.
Bonne journée.
Merci et à bientôt sur Inter. L'été comme jamais se referme comme tous les jours par un plateau ciné de Laurent Delmas, un film chaudement recommandé à voir sur la plateforme Universciné. Et on démarre comme tous les jours en ne révélant surtout pas le titre du film, mais en écoutant la première scène. Vous devriez reconnaître François Angelier.
Hey, this is the sisters, brothers. The Commodore sent us. He knows we have found. Hand him over, and the rest of you will live.
Même pas mal, Laurent Delmas. Trop fastoche, hein, ce matin, la réponse, le titre du film était dans l'extrait sonore.
Mais c'est vrai, tous les westerns ne commencent pas par des coups de revolver et des apostrophes viriles, mais certains, oui, Dorothée, pour en quelque sorte clairement afficher la couleur. Alors en 2018, le cinéaste français Jacques Audiard faisait le pari avec son complice en écriture, Thomas Bideguin, de se mettre dans les traces, effectivement, de ce genre américain par excellence. Ainsi donc commencent les Frères Sisters.
Hey, fuck off.
We're not done yet.
Sorry, Mr.
I'll tell you anyways. We have to go south and find Morris.
Le film est l'adaptation d'un roman publié par l'écrivain canadien Patrick DeWitt en 2011.
Why do we have to find Morris?
On y suit les tribulations d'Eli et Charles Sisters, les frères sœurs donc, ça ne s'invente pas, ou plutôt si, la preuve. Soit deux tueurs à gages au service d'un gros bonnet local pour retrouver mort ou vif un certain Herman Kerrett Worm qui a fait du tort au gros bonnet susmentionné et surnommé
Commodore. Told us he would get us new horses.
Isn't that what he did?
No.
Tout leur arrive à ces deux-là, y compris d'être capturés et de frôler la mort.
Hey, Maurice, what are you gonna do with us?
They ask us to run and shoot us like rabbits.
Dump us in the forest.
Mais Jacques Audiard ne triche pas avec le genre. Il en respecte les codes. Il y a les paysages, les lieux comme le saloon, ou bien encore les longues conversations devant un feu de camp à côté des chevaux fourbus qui se reposent d'une longue journée de promenade.
If a man is forced to protect his fortune with the likes of us, what would you call it?
Not victimized.
You're not going to start nitpicking over every word, are you? That's your problem. Are you upset? You're upset because I'm the lead man? Is that it?
Respectueux jusqu'au bout, il réserve aux personnages féminins la traditionnelle portion congrue, chère à nombre de westerns, au point même de viriliser la seule femme de cette histoire.
You're looking for someone? Because usually I'm the one people ask for news in this town.
Who are you?
Mayfield.
Ah, the great man himself.
Mais alors, il rejoint ainsi son propre univers, où depuis le départ, on regarde les hommes tombés en l'absence ou presque des femmes. Chez Audiard, il y a d'abord des pères et des fils, des questions de filiation et de paternité, des histoires de transmission également.
You made plans with her?
Plans?
Start a family, have children, marry her, something like that.
I don't know.
Et voilà comment on passe très habilement d'un film de genre conventionnel à ce qui est peut-être l'un des films les plus personnels de son auteur.
You remember how Paul was with Mom?
Yes, Charlie, I remember.
Jusqu'à cette ultime dédicace dans le générique de fin, au frère disparu, deuil familial dont la blessure ne saurait se refermer.
You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins?
Our father drank, Charlie.
Le film devient alors ce qu'il est vraiment, un long cauchemar métaphysique, bien plus proche hein, des peurs primaires de la nuit du chasseur que de « Il était une fois dans l'Ouest ». Dans ce voyage, au pays de l'extrême virilité, il faut bien le dire, Jacques Audiard ne délaisse jamais le cinématographe et ses qualités stylistiques. Ni western à l'ancienne, ni western moderne. Les Frères Sisters imposent sa singularité et se placent étrangement au centre de la filmographie de son auteur. Comme s'il lui avait fallu passer par Oregon City en 1851 pour parler de lui comme jamais.
J'ai rêvé de Paul last night.
No, that's perfect. I'm sick of this place. Weeks of death, everything is fucking soaked. Let's go.
Complice de toujours de la première heure du cinéma de Jacques Audiard, c'est Alexandre Desplat qui en signe la musique originale. Prochaine séance demain même heure.
Les Frères Sisters, Jacques Audiard, merci à Laurent Delmas et Anne Wenfeld. Et je vous rappelle que tous les films dont nous parle Laurent chaque matin sont à savourer sur universciné.com, notre partenaire, tout l'été. Allez hop, on file place du marché, retrouvez Antoine Lee. Bonjour Antoine, où êtes-vous aujourd'hui?
Bonjour Dorothée, aujourd'hui on est à Hayange, en Moselle, avec nos invités. On va parler de la sidérurgie en Lorraine, de son dynamisme économique et d'humour en plate, le patois local.
Rendez-vous place du marché, ce sera juste après les infos de 11h. Et puisque j'ai quelques secondes, j'en profite pour vous rappeler le numéro du répondeur de France Inter, 01 56 40 68 68. Vous nous laissez des messages pour réagir chaque jour aux émissions, à l'été comme jamais notamment, et on diffuse tout ça à 10h30. Parlez-nous notamment de Cabane, le sujet vous a beaucoup plu. En première heure, on a été inondé d'appels et bien sûr, tout le monde n'est pas passé à l'antenne. Racontez-nous ça sur le répondeur 01 56 40 68 68. L'été comme jamais revient demain 9h. Nous parlerons des héros du quotidien avec l'ami Frédéric Pommier, auteur d'une chronique savoureuse dans le 5-7 de France Inter, le quart d'heure de célébrité. Cette chronique est devenue un livre. Frédéric sera mon invité en première heure. Et en deuxième heure, nous parlerons de design.